Il y a des peuples qui pensent qu'il n'y avait pas de différence entre la nature et entre le fonctionnement d'une société et puis cette marche de l'univers. La marche de l'univers, c'est quelque chose que les précolombiens, là-bas, du côté du Mexique, ont étudié depuis des millénaires. Ils avaient remarqué surtout que l'énergie était sans cesse dissipée. Ils avaient compris que les mouvements complexes, mais très complexes, du cosmos, bien que ces mouvements généraient une sorte de dépérissement, mais je dirais même le propre dépérissement de ce cosmos, et que le temps lui-même devait être conçu de manière cyclique. Ils étaient sûrs qu'il était toujours prêt à se désintégrer. C'est curieux de vouloir désintégrer le temps, cette matière étrange, cette idée que l'on se fait de grands circuits qui reviennent les uns derrière les autres. On peut se trouver un jour à La Venta, chez les Olmèques, une première civilisation va éclore dans les marécages, une première pyramide va monter vers le ciel, et puis, aux alentours du début de notre ère, tout est oublié. Le vent souffle, le sable recouvre le tout, la boue qui avait permis de construire la grande pyramide de La Venta, petit à petit reprend sa place, les mangroves, une végétation étrange, comme si le temps effectivement s'était désintégré là-bas, à l'endroit où était née cette première civilisation. Les précolombiens, ils avaient déjà constaté que l'énergie humaine, elle aussi, était quelque chose qui pouvait se dissiper. Essayez de sentir en vous votre chaleur, essayez de songer comment, pour vous-même, le temps a déjà passé. Et regardez le soleil, ou pensez à lui peut-être. Essayez d'imaginer que lui aussi se dissipe, se dépense carrément. Il se dissipe dans la chaleur de la vie, parce que c'est bien cela qu'avaient compris ces Indiens, cet échauffement qui est en fait la perte de contrôle de cette énergie. Tout cela devient bien sûr très dangereux. On arrive exactement au cœur du problème de ces Indiens du Mexique, de ces Indiens d'il y a 1000, 2000, 3000 ans, qui avaient compris qu'une simple erreur pouvait menacer la stabilité du système. Après tout, aujourd'hui, dans notre propre civilisation, je crois que peut-être à cause de l'écologie, peut-être à cause de cette nouvelle observation de notre planète, de ce système solaire, et puis peut-être aussi de l'astronomie, de cette nouvelle idée cosmique que l'on a, je pense qu'on comprend aussi qu'il y a menace, qu'il y a danger de stabilité ou de non-stabilité. Donc on vivait chez les Indiens d'Amérique dans une incertitude qui était ce devenir du cosmos, une incertitude qui posait problème pour l'avenir de l'homme, de tout ce qui était humain. Vous avez compris ? Vous êtes au cœur même de cette civilisation. S'il n'y a pas de différence entre la nature et le fonctionnement d'une société, s'il n'y a pas de différence entre cette nature, ce fonctionnement de société et la marche de l'univers, je crois qu'il y a un endroit, là-bas, dans ces hauts plateaux, sur ces régions semi-désertiques, lorsqu'on les approche de l'extérieur, lorsqu'on arrive petit à petit dans cette vallée étrange, dans la région de l'endroit où sont nés les dieux, là-bas à Teotihuacan, lorsqu'on arrive et qu'on découvre ces montagnes avec déjà une forme pyramidale, lorsqu'on a vu en passant, là j'ai envie de voler, j'ai envie de vous emmener par avion, un peu comme un oiseau, comme un aigle d'altitude, arriver, deviner sur la gauche le volcan Popocatépetl avec ce sommet enneigé, encore une légère fumérole au sommet, et puis son amante, cette jeune femme couchée. Vous voyez la forme de la tête, c'est de la neige. Vous voyez aussi cette forme du buste, et vous glissez vers les pieds qui remontent, toujours en blanc, toujours avec cette couleur de la neige, et dessous un rocher noir, ou plutôt des scories, c'est aussi un volcan. Et vous vous approchez petit à petit de cette vallée que je décrivais, de ce plateau étrange, et vous avez encore ces formes un peu identiques, des montagnes, des monticules qui montent vers le ciel de façon très régulière, et au centre, tout à coup, vous survolez quelque chose d'étrange. Vous voyez d'abord une ligne continue sur près de 3 kilomètres, une sorte de voie royale, et tout à coup, juste au bord de la voie, une pyramide, mais une pyramide comme nul homme n'a pu en rêver. Oh, c'est vrai, on pourrait se transporter d'un seul coup d'aile du côté de l'Égypte et penser à Khéops, mais lorsqu'on est devant la pyramide du soleil de Teotihuacan, on comprend que cet endroit où sont nés les dieux, Teotihuacan, cet endroit où les géants ont réussi à construire cela, comme le disaient les Aztèques, c'est un endroit bien particulier, parce qu'il y a une toute petite structure qui a été découverte dans les années 60 à l'intérieur de cette construction, mais d'un seul jet, d'un seul coup, monter comme cela vers le ciel avec 1 million de mètres cubes de terre, monter vers le ciel avec des dimensions pareilles, c'est-à-dire se retrouver devant un édifice qui mesure quand même 225 mètres, je pensais à l'Égypte tout à l'heure, 225 mètres de côté, c'est la grande pyramide d'Égypte, elle est moins haute, d'accord, elle monte à 60 et quelques mètres, je vous donne des dimensions simplement pour la surdimensionner, pour vous donner cette impression d'écrasement étrange. Être sur une surface de 50 000 mètres carrés, ce sont des chiffres, mais portés à dos d'homme, avec un bandeau sur le front, quelque chose comme 2 millions et demi de tonnes de matériaux pour construire d'un seul jet, en une seule fois, un hommage aux dieux. Nous allons découvrir aujourd'hui Teotihuacan. Teotihuacan, c'est plus que l'endroit où sont nés les dieux. Teotihuacan, c'est la perfection. Parce que quelques siècles après l'aube de notre ère, c'est vrai que là, au moment où tout est construit, il y a plus de 30 kilomètres carrés qui vous entourent, de construction, un centre cérémoniel où il y a de la vie, où il y a cette voie royale qui fonctionne, cette distribution, non pas devant une pyramide, mais auprès de palais, auprès de labyrinthes étranges, avec encore la lune à l'autre bout, et toujours cette volonté de vous profiler avec l'horizon, de vous fondre avec la nature, c'est une explosion. Cette explosion, cet endroit où sont nés les dieux, Teotihuacan, tout cela sera construit avec un axe d'une perfection diabolique, un axe qui est peut-être celui que seul le ciel, l'astre suprême, pourrait vous donner si vous étiez, vous, l'architecte, celui qui va concevoir dans votre tête, là, d'un jet, la cité la plus incroyable du Nouveau Monde. Une pyramide, une seule construction, sur un endroit qui m'a touché. Oh, je sais, vous ne pourrez pas le visiter parce qu'il est fermé au public, mais quand on m'a avisé qu'on venait de trouver à l'intérieur, dans les années 70, d'abord un couloir de plus de 100 mètres, qui pénétrait de façon naturelle à l'intérieur de la roche. Oh, il avait été aménagé par ces Indiens, par ces précolombiens, par ces constructeurs, par ces prêtres, par ces théocrates du début de notre ère. Et au bout, vous vous retrouvez à l'intérieur d'une fleur. Une fleur à Teotihuacan, c'est quelque chose qui a 4 pétales, un peu comme 4 horizons, comme une rose des vents. Une fleur aux angles bien arrondis, comme une grotte où vous avez envie de rester avec un centre, et ces alvéoles qui vous entourent. Et puis, à l'intérieur de ce couloir, que j'ai remonté peut-être de façon un peu trop facile, il y a eu, à un moment donné, après la construction, après peut-être un culte qui a dû durer plusieurs siècles, il y avait certainement quelque chose au centre. Au moment où la grotte a été utilisée, il devait y avoir de l'eau, peut-être une source. En tout cas, il y a des canaux, il y a quelque chose qui nous prouve qu'il y avait cette eau pure qui devait sortir de façon étrange. Et au fil du temps, au moment où on a décidé que cet endroit devrait être fermé, devait être sacré ou ignoré même, on a commencé à construire des murs qui vont fermer petit à petit ce long canal de 100 mètres. Oh, c'est vrai qu'il y a encore une ouverture pour passer, si vous êtes assez fin, si vous êtes assez sportif, vous pouvez vous glisser et sauter ainsi toutes ces palissades, ces murs étranges, afin de rejoindre cet endroit sombre, cet endroit obscur. Vous êtes redescendu dans l'inframonde, vous êtes de nouveau au cœur du problème précolombien. Une source, une grotte, quelque chose d'habité, mais pas par vous, par les dieux. Sur une grotte qui est mythique, bien sûr, et cette entrée qui vous a amené jusque-là, et qui vous a amené jusqu'au centre de cette masse pyramidale, vous avez remarqué aussi qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un axe qui va permettre, oh, c'est un nom peut-être un peu savant, mais toute l'orthogonie, parce que c'est le terme qui convient lorsqu'on parle de Teotihuacan, lorsqu'on parle des Indiens, c'est curieux, on a toujours envie de prendre un bras, de le mettre de bas en haut, et puis de prendre son deuxième bras et de le croiser, comme une véritable croix, parce que tout ce qui est orthogonal est bien sûr à angle droit, et cette orthogonie du site, elle va fixer tout cela selon cette idée de l'angle. Teotihuacan, quand pour la première fois vous êtes devant la pyramide, que vous êtes en face de cette pyramide du soleil, vous remarquez que cet axe a été repéré. Il a peut-être été repéré à un moment donné lorsqu'on l'a calculé, lorsqu'on l'a vraiment conçu, qu'on l'a mis en place. Il était repéré de nuit par le lever des Pléiades. Vous savez, ces Pléiades se lèvent à l'horizon aux dernières heures de cette nuit. J'imagine toujours à la fois la pleine lune et puis cette pleine lune qui a un trajet nocturne. On se rappelle toujours de la dernière pleine lune. On la voit toujours se lever, ou lorsque vous êtes sorti par hasard vers minuit ou 1h du matin, elle devient plus petite, mais elle est très haut. Et finalement, si par hasard vous rentrez très tard ou vous vous levez très tôt, elle a aussi cette façon étrange de se coucher, eh bien, à cet instant-là, vous auriez ces Pléiades qui apparaissent. Et ce lever, Héliac, les astronomes de Teotihuacan l'avaient repéré. Ils savaient très bien que le jour suivant, le soleil allait passer exactement au zénith. Or, nous ne savons pas sous nos latitudes ce que veut dire un passage au zénith. C'est quelque chose, non pas d'étrange, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui vous donne la chair de poule. Parce que quand vous le voyez là-haut, comme une chose suprême, et que vous comprenez que tout à coup il est vraiment au seul point du ciel où il y a un sommet, vous n'avez plus de distance avec lui, vous ne savez pas où il est placé. C'est peut-être l'endroit le plus fou de son parcours. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'il n'y a plus d'ombre sur la Terre, que l'énergie du Soleil est totale, et que ce moment où toute obscurité est mangée, eh bien, vous êtes en même temps à Teotihuacan. L'architecture complète de ce site a été conçue pour cet instant magique, ce Soleil qui, deux fois par année au Mexique, passe là-haut, à ce zénith, qui crée une sorte de transit, parce que, quand je dis transit, j'imagine immédiatement cette ligne qui passe exactement du point de lever à notre point zénithal jusqu'au point du couchant, bien sûr, qui passe exactement aussi dans l'axe de l'escalier de la pyramide. Vous êtes à la fois en train de monter la pyramide, de vous arrêter à son sommet et de redescendre cet escalier monumental. Cet axe était trouvé, il était annoncé ensuite chaque année à la même date. C'est-à-dire que vous pouviez, grâce à ce lever, Héliac, grâce à cette idée des Pléiades, vous pouviez dans cette nuit magique annoncer l'assurance de la force et de l'énergie du soleil. À midi, l'ombre elle-même qui s'efface devant cette force, la chaleur aussi, la lumière, parce que j'insiste un peu, la lumière de l'astre, elle va fixer au sommet de la pyramide cette heure magique où les forces contraires, je dirais même les forces complémentaires, vont se retrouver ensemble. C'est un point où tout à coup, tout est compris. C'est le moment où se rejoignent dans une sorte de diagramme. Essayez mentalement de revoir cette image, de former les quatre points, de réunir les quatre éléments. Ce sont les angles de la pyramide. Regardez, maintenant vous êtes en train de la concevoir, vous êtes vous-même un architecte et vous avez compris qu'il y avait de la terre, qu'il y avait du feu, qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de l'air. Et aux quatre coins du bâtiment, vous avez placé cela et au sommet, vous imaginez maintenant ce zénith. Au sol, rappelez-vous de la grotte. Là, à l'intérieur, 100 mètres à l'intérieur, 112 mètres à l'intérieur de cette construction. Ce point au sol, qui est le point central, qui est le point terrestre, et puis là-bas, tout en bas, sous vos pieds, sous le centre de la pyramide, ce qu'on appelle le nadir, l'opposé du zénith, et le lieu passe où passe ce même jour le soleil nocturne, parce que lui aussi va passer au nadir parfait, comme vous avez vu aujourd'hui le zénith dans sa perfection. Chaleur, lumière, 2300 mètres d'altitude, une pyramide qui monte jusqu'au sommet. je vous ai interdit mentalement, mais c'est bien qu'aujourd'hui les archéologues aient fermé ce tunnel, que cette grotte ne soit pas visitable. Mais lorsque vous êtes pèlerin, piéton, touriste, et que vous remontez cette allée de 3 km, tout à l'heure on reprendra le parcours parfait, celui que je considère comme parfait, à Teotihuacan. Et que vous avez déjà parcouru plus de 2 km. Vous avez vu la citadelle, une sorte d'entonnoir incroyable où tout le site va disparaître simplement parce qu'il y a quelques escaliers, qu'il y a quelques travelling, parce que c'est bien cela. Vous montez une esplanade, la vue s'ouvre, vous avez une place de 400 mètres devant vous, et puis vous avancez. Vous avez l'impression d'être au bord d'un précipice. Non, l'escalier est toujours là. Vous descendez, il est placé en plein cœur, et vous avez parcouru 10 marches, 15 marches, et le monde disparaît autour de vous. Tout ce qui était marqué à l'horizon, y compris la grande pyramide du soleil, peut disparaître à l'intérieur d'une cour, une cour de 400 mètres de côté, tout simplement avec des marches qui vous obligent à descendre jusqu'à ce que vos yeux laissent glisser uniquement quelques décors, quelques formulations qui vous faisaient penser tout à l'heure que vous étiez sur une place très animée, tous les pèlerins étaient là, et vous avez été invité, comme quelqu'un qui a de l'importance, dans un lieu de recueillement. Et pourtant, en levant les yeux, il n'y a que du bleu, et peut-être quelque chose qui monte encore à l'horizon, le soleil. Cette ligne est toujours là, vous êtes à ciel ouvert, et pourtant, il y a une notion de confort, d'enfermement, de recueillement. Repensez, tout à l'heure vous verrez la pyramide, vous allez monter sur un endroit secret. Vous pourrez monter, vous serez le grand prêtre. Il y aura un temple au sommet, il a disparu aujourd'hui. La grotte, l'entonnoir secret, le temple secret. Vous êtes sorti de la citadelle, vous avez vu ce temple miraculeusement protégé, cette pyramide enfin, qui a été cachée par une structure et qui a permis aux archéologues de redécouvrir les plus belles sculptures peut-être du monde précolombien d'alors. Vous êtes encore au début de notre ère, dans les premiers siècles, et vous avez vu pour la première fois aussi ces gueules énormes, ces gueules presque de dragons avec des plumes en collerette, avec une forme serpentine qui ondule le long de ces sculptures qui sont en fait des blocs de pierre énormes qui ont été travaillés, qui ensuite ont été recouverts de stuc et qui ont été colorés en rouge, en vert turquoise. Il y a des coquillages, il y a une impression d'être au bord de la mer et en même temps de voir ces grandes plumes de quetzal. Le quetzal, c'est un oiseau, vous savez, cet oiseau qui vit dans les terres chaudes du Guatemala ou du sud du Mexique, un oiseau de paradis. Il n'est pas très grand, il fait une vingtaine de centimètres et il a deux superbes pennes à sa queue qui font plus de 60 centimètres. Le serpent à plumes précieuses. Être recouvert ainsi de ce ton vert, un vert entre le côté sapin, le côté turquoise, le côté émeraude, le côté jadéite, un vert qui tourne jusqu'au bleu, un peu comme, vous savez, les plumes de paon qui changent de ton selon le reflet du soleil. Un serpent à plumes qui ondule sur ce bâtiment, un endroit fort, un endroit magique, et puis vous vous êtes laissé aller à observer tout cela, à ressentir aussi cette divinité qui est juste à côté du serpent, avec des points qui, insensiblement, tout à coup, vous évoquent les grains de maïs, l'agriculture, l'eau. Ah, Ça commence à couler, ça commence à dégoûter. On a envie de parler de saison agricole. Teotihuacan, c'est le début, c'est l'explosion d'une civilisation qui va vivre de cette agriculture. Vous êtes dans une vallée fertile. J'ai parlé de désert, mais vous êtes loin de ce désert. Il y a de l'irrigation, il y a la possibilité de recevoir de l'eau du ciel. Teotihuacan, une citadelle, vous remontez une vingtaine de marches, une esplanade, tout est là. Sur votre droite, vous redécouvrez la grande pyramide, vous descendez sur l'allée, vous remontez cette allée petit à petit, et tous les 100 mètres, tous les 150 mètres, vous avez une sorte de dépression, comme si, grâce à des escaliers, vous redescendiez dans une sorte d'entonnoir en forme carrée, avec des temples autour, des hôtels, des endroits pour vous recueillir. Vous remontez, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez. Tout disparaît, tout apparaît. Finalement, à la fin, une dernière allée parfaite. Au fond, la pyramide de la Lune, une petite sœur jumelle, parfaite aussi, avec plusieurs édicules autour. Une perfection qui fait que vous êtes non seulement en plein air, mais vous avez l'impression qu'on peut continuer comme ça, sur des kilomètres carrés, plus de 30 kilomètres de construction, toujours de manière orthogonale. Et puis, vous vous êtes approché d'elle, vous vous êtes placé devant, vous êtes toujours sur l'allée, vous grimpez encore une vingtaine de marches, elle apparaît pour de bon, vous redescendez au cœur de son hôtel, là vous êtes prêt à l'accueillir, elle vous accueille, elle va vous recevoir, elle est immense, elle ouvre ses bras, c'est la grande pyramide, une pyramide qui tout à coup dans votre tête se double, vous avez vu une flaque d'eau, vous avez regardé et vous l'avez vue deux fois, une fois montée vers le ciel, une fois descendre, descendre dans cet inframonde, une double pyramide parfaite qui chaque année recrée le cycle des saisons, la pluie, le jour, la nuit, sans lequel le paradis terrestre ne pourrait pas exister. L'énergie, le temps, la nature nourricière, cette nature que les hommes peuvent maintenant contrôler, qu'ils peuvent maintenant conserver. Vous êtes devant la pyramide, c'est une machine à conserver le temps, à connaître les saisons, à vous nourrir, la grotte, de l'eau, le temps solaire, tout s'est mis en mouvement. Des escaliers, un Lego, l'envie de jouer avec des formes simples. L'escalier sans rampe, des tableautins, je veux dire par là, imaginez un cadre de tableau qui s'allonge à l'infini et vous avez finalement le cadre, le soleil, laissez-le au zénith, le soleil qui tape sur le sommet du cadre. Vous peignez tout cela en rouge, l'escalier aussi, la place, la pyramide. Encore un cadre qui tourne autour de chaque décor. Chaque fois que vous avez un niveau, chaque fois que vous avez envie de monter une structure sur une autre structure, mettez ce cadre et dessous vous mettez une sorte de talus en oblique à 45 degrés. Vous allez voir, le soleil tape sur le cadre, il éclaire de manière très étrange la surface du cadre qui, elle, est horizontale, et puis il y a l'intérieur du tableau qui, lui, est d'abord dans l'ombre. Le bas sera un peu plus éclairé avec un seul rouge couleur cinabre, une couleur inimitable. Vous avez créé 5, 6, 7 tons différents, du rose pâle, presque blanc, jusqu'au rouge, jusqu'au brun obscur, uniquement avec l'ombre et la lumière. Demandez à un architecte ce qu'est l'architecture. Il vous répondra ombre et lumière. Teotihuacan. Thank you. avec quelques millions de mètres cubes de terre, de roches, avec des tonnes et des tonnes de stuc. C'est vrai que penser que des kilomètres carrés ont été stuqués, ça veut dire penser à un gâteau d'anniversaire, quelque chose de lisse, quelque chose de parfait, avec des formes assez douces parce que les angles s'arrondissent avec le stuc, bien sûr, la lumière joue encore. Tout cela, c'est un peu une offrande, parce qu'on a parlé d'énergie, on a parlé de temps, on a parlé de nature nourricière, on a parlé de contrôle humain, de conservation de ce contrôle par l'humain. Il y a des chefs, il y a des ouvriers, il y a des agriculteurs. Qu'apportez-vous ? Votre travail, votre énergie ? Des pénitences peut-être ? Quelques offrandes ? Des sacrifices ? Vous avez mis en place un calendrier ? Tout cela est judicieux, tout cela est normalisé, tout cela correspond à des fêtes, chaque offrande en son temps, en son lieu. Demain, le zénith, le solstice, l'équinoxe. Vous avez peint tout cela, vous avez dessiné tout cela. Vous avez des artistes qui, eux, vont essayer de vous faire concevoir cet univers, cette idée déjà religieuse. Un dieu avec des mains ouvertes, des mains qui s'ouvrent. Et regardez, il y a quelque chose qui coule. Des grains de haricots, des grains de maïs, il y a de la végétation. C'est presque abstrait, mais c'est symbolique aussi. Il y a quelque chose d'étrange. On voit que tout pousse, que tout coule. Vous voulez offrir à cette terre ce qui va lui permettre d'être nourricière. Vous allez faire naître la petite graine. C'est vous qui, grâce à votre énergie, grâce à votre connaissance du temps, grâce à cette connaissance parfaite du mouvement cosmique, allez contrôler cette petite graine. Elle est morte aujourd'hui, vous la mettez en terre, la grotte, et tout à coup, avec l'eau, elle pousse, elle monte, elle vous donnera une graine, vous la mangerez ou vous la planterez. Énergie, temps, nature, nourriture, contrôle, conservation, société, architecture, Teotihuacan. Vous l'avez vu de très loin, vous êtes venu depuis Mexico, vous êtes à 40 km de cette capitale grouillante. Vous êtes retombé dans cette autre capitale qu'est Teotihuacan, l'endroit où sont nés les dieux. Pourquoi ? Parce que il y a une image que j'aime lorsque je parle de Teotihuacan. C'est cette image, sentez le rythme. Une chaise à porteur. Sur la chaise, quelqu'un qui est celui qui parle, celui qui commande le monde. Vous êtes en 1502, 1505, 1519, dans quelques jours Cortés arrive, et pourtant, tous les 20 jours, vous, le grand Tlatoani, celui que les Espagnols vont appeler l'empereur aztèque, va partir de Mexico Tenochtitlan, faire 40 km dans la campagne, traverser d'abord la lagune sur une pirogue. Oh, bien sûr qu'elle est plus riche que les autres pirogues. Il va d'abord marcher, toujours porté, bien sûr, sur sa chaise, le long des grandes digues qui l'amènent là-bas, du côté de l'est, du côté du nord, du nord-est, du côté de Teotihuacan. Et puis, tout à coup, au début de la grande vallée, vous l'apercevez, elle est grise encore. À l'époque, elle était verte parce que c'était une montagne de terre avec du gazon. Là, dans les années 1500, on retournait, quand on était empereur, tous les 20 jours à Teotihuacan, une ville qui était abandonnée depuis 650 de notre ère, qui avait surgi par hasard au début de notre ère. Vous êtes là presque 1000 ans plus tard, et pourtant tous les 20 jours, vous retournez à Teotihuacan, l'endroit où sont nés tous les dieux. Là-bas où aurait brûlé un jour la fournaise sacrée, cette fournaise d'où va sortir le soleil. Ce soleil qui sera le directeur du monde, celui qui dirige tout, qui vous dirige encore. Et pourtant, sur la mer, quelques bateaux arrivent, un autre soleil va naître, le vôtre va se coucher. Le cinquième soleil est mort. Il y a eu un autre soleil, là, il y a quelques siècles, à Teotihuacan. Un soleil qui a été conçu peut-être dans l'univers de cette architecture, qui est capable à la fois de vous ouvrir le ciel ou alors de vous enfermer confortablement. Attention, la température va changer. Vous allez pénétrer dans un palais, un patio, de l'ombre, un confort qui vous laissera peut-être un mois avec pénitence à réfléchir, à concevoir, à penser. C'est vous qui concevez le monde. Teotihuacan était déjà en ruine quand l'empereur y venait tous les 20 jours du calendrier, c'est-à-dire chaque mois. Si on ressentait le besoin de faire 80 km, 40 et 40, tous les mois, simplement pour dire bonjour à quelque chose qui ressemblait à une montagne magique, plus une pyramide comme celle que l'on a retrouvée en fouillant au début de notre siècle, en travaillant à l'anastylose, en remettant pierre sur pierre, ce qu'on connaît aujourd'hui de Teotihuacan, ce que vous devez voir quand vous arrivez à Mexico, le mast de la région bien sûr, eh bien, c'est aussi parce qu'il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit. Quelque chose d'étrange que l'on ressent lorsqu'on a terminé de remonter l'allée des morts. On l'appelle allée des morts parce que les Aztèques pensaient que c'était là qu'on enterrait les personnages importants à l'époque. C'est là que les Espagnols ont pensé que les Aztèques eux-mêmes enterraient leurs empereurs, justement, qui allaient systématiquement à Teotihuacan. Lorsque vous avez terminé ces 3 km, vous avez aperçu, vous avez peut-être même voulu grimper au sommet de la pyramide de la Lune, 300 000 mètres cubes de terre, une fois de plus. Et puis là, à gauche, une statue vous a interpellé, un gros serpent, une grosse gueule, comme ça, avec ses yeux ronds, bien particuliers, bien orthogonaux, comme si même la sculpture avait besoin d'être à angle droit, un peu tranché, un peu cassante. Un escalier. Vous montez et vous découvrez quelque chose que... Oh, c'est vrai que les archéologues ont travaillé avec 1500 ouvriers pour refaire ce que vous allez découvrir maintenant. Le palais de Quetzalpapalotl. Quetzal, l'oiseau, Papalotl, le papillon. Vous montez l'escalier et vous retrouvez... Enfin, on se retrouve dans une sorte de salle étrange avec un plafond assez bas, fait de poutres recouvertes de stuc, des colonnes bien carrées, et puis tout à coup, la peinture, le rouge, ce rouge avec des spirales, des formes en grec, des motifs bien réguliers, des petits talus qui descendent comme ceci au bas d'un mur bien droit. L'isolement, une salle d'attente immense où vous pourriez être 30, 40, 50 peut-être, et au fond une porte qui vous interpelle peut-être aujourd'hui, mais à l'époque il y avait des rideaux, on voit encore l'emplacement où étaient accrochés ces rideaux. Et on vous laisse rentrer. Rentrer, c'est découvrir le silence. Cette lumière plus douce. Pour la première fois, un décor éclairé. Des colonnes qui sont délicatement sculptées. C'est là qu'on retrouve ces oiseaux, un peu des rapaces, un peu des papillons, un peu des quetzals, ce paradisier dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, des motifs qui font penser à des coquillages découpés, à des petits zigzags, à des yeux qui sont cachés dans des cercles, des yeux bien réguliers. Au centre de l'œil, une petite pastille d'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre vitrifiée, une pierre volcanique brillante comme un miroir, lisse comme un miroir. Et l'œil, il est dans un cercle. Et vous vous dites, tiens, c'est curieux. On dirait une étoile, on dirait quelque chose qui nous observe. Et puis en bas, quelques plumes de quetzal qui s'écoulent dans l'autre sens. Et cet animal étrange au centre, à la fois papillon avec ses avec ses pattes, avec ses serres, avec ses yeux qui eux aussi sont pastillés de noir, et puis on imagine tout à coup le reste, le vert, le rose. Les yeux montent, on voit ces tableaux rallongés qui donnent la forme au patio, avec encore des pastillages verts, et puis des tuiles en forme de grec, des tuiles avec une forme aussi symbolique qui représente le temps. Et là, on se dit que c'est un lieu qui n'est pas comme les autres lieux de Teotihuacan. Parce que l'homme n'est pas que matière pour les précolombiens. C'est pourquoi les prêtres, ceux qui maintenaient le pouvoir aussi, ces philosophes, parce qu'il y en avait, et puis ces docteurs, je les appellerais docteurs de la loi, parce que j'ai envie de les appeler ainsi, ils vont se retrouver dans ces palais, et dans ce palais en particulier, dans ces univers fermés, où ils devaient convenir des rites qui sont relatifs à la bonne marche. Vous avez tout à l'heure dessiné le diagramme sacré, vous avez conçu l'univers, le haut, le bas, l'inframonde, les quatre points cardinaux, le centre où vous êtes vous-même. Ces éléments, ces soleils qui n'étaient pas animés parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait une parcelle, une petite étincelle d'esprit. Il fallait qu'il y ait cette spiritualité, il fallait que seul le centre énergétique devait pouvoir produire cette étincelle. Il fallait le produire. Mais c'était peut-être la raison du site. C'était en tout cas, à mon avis, la raison de ce centre cérémoniel de Teotihuacan. Ce n'est pas une ville. Non, non. C'est un moteur. C'est une machine. C'est un incroyable lieu de pèlerinage pour toute la Mésoamérique. Et quand je dis Mésoamérique, c'est vrai que vous avez envie, non pas de marcher depuis Mexico, Tenochtitlan, mais venir de Oaxaca, si vous êtes zapothèque. Venir peut-être même de Tikal, si vous êtes maya, venir de Caminalhuyu, si vous habitez du côté du Guatemala, parcourir 100, 200, 1000 kilomètres pour remonter cette allée, pour non pas participer au rituel, mais être impressionné par le fait de ne pas pouvoir y participer. La grotte, le sommet du temple, ce palais bien fermé, la pensée de Teotihuacan. Fermez les yeux. Revoyez maintenant cette course qui vous a brûlé. Sentez cette chaleur. Vous êtes assis au centre du patio. Restez-y quand il pleut. Abritez-vous. Pénétrez dans une des salles. Il y a des peintures, mais il y a surtout de l'obscurité. De la fraîcheur s'il fait chaud. De l'abri s'il pleut. Et puis, il y a cette pensée, parce que vous allez rester là. Et c'est vrai que lorsqu'on évoque Teotihuacan, on doit imaginer surtout ces autres trajets. Cette nuit, vous êtes sorti dans la cour. Vous avez vu ce tapis incroyable piqué d'étoiles. Il y en a une qui vous a interpellé. Vous l'avez observée. Vous pouvez l'observer si vous êtes à Chichen Itza, peut-être déjà à la Venta. On l'a observée depuis déjà des millénaires. Vénus. Vénus qui nous rappelle le serpent à plumes de tout à l'heure, Quetzalcoatl, parce que les dieux avaient déjà suivi tout ce que vous venez de faire mentalement. Les dieux avaient suivi ce cheminement, un cheminement extrêmement précis qui allait en fait dicter les bases de cette religion. Une religion astrale, bien sûr. Une religion qui est propre aux fidèles de Teotihuacan. Les mythes dont je parle, ils retracent tous les, Les pérégrinations, on parlait de pèlerinage, c'est bien ça, ce sont des pèlerinages célestes. Il y a des descentes dans l'inframonde, dans l'obscurité, derrière la terre, derrière l'horizon, derrière ces volcans. Et puis, il y a cette descente dans la matière. Parce que c'est bien de cela qu'il faut parler. Tous se sont un jour sacrifiés, volontairement. Tous ces dieux se sont sacrifiés afin de permettre, oh, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu trop connu, pour permettre la résurrection du monde. Pour permettre que des hommes, et surtout que la lumière. Oui, c'est bien cela. Il faut que la lumière soit toujours triomphante. C'est simple, mais ça a quelque chose de prenant. Quand vous vivez pour quelques instants à Teotihuacan et que vous ressentez cela, j'ai parlé de la chaleur, j'ai parlé de la force de la lumière, de la force des couleurs, et bien là, tout à coup, vous vous dites qu'effectivement, n'importe quel objet que vous verrez de Teotihuacan, n'importe quelle statue que vous verrez sur le site, n'importe quelle fresque que vous observerez, vous fera penser que derrière cette symbolique, un jaguar, un serpent à plumes précieuses, un papillon, derrière tout cela, il y a bien sûr une sorte d'écriture mentale, une volonté de vous dire que derrière chaque motif, il y a bien sûr une de ces étoiles, une de ces planètes, un de ces astres, qui continue à parcourir le ciel de jour ou de nuit. C'est ainsi qu'est né le soleil. Mais dans ma tête, immédiatement, je réponds comme un indien, je dis les soleils, parce que il y a eu plusieurs soleils qui ont déjà existé. Je vous ai dit tout à l'heure, le temps est cyclique. Tout revient à sa première heure, à sa dernière heure aussi. Et les soleils comme la lune, comme Vénus, comme vous-même, tout cela va suivre ce circuit. Tous sont morts. Tous sont morts et tous meurent pour donner la vie. La petite graine de tout à l'heure, l'eau, la grotte. L'homme doit donc en faire autant. Et je crois que c'est ça qui est important. Par sa mort, il doit se transformer lui-même en serviteur du soleil. C'est bien sûr l'idée du précolombien. Oh, j'ai un peu avancé dans l'histoire, je suis presque déjà à la solution aztèque, une solution terrifiante, mais à Teotihuacan, on a aussi cette impression que 2,5 millions de mètres cubes de terre, c'est de l'énergie, c'est de la vie pure, le temps s'est écoulé, vous avez perdu du temps pour construire tout cela, et vous voulez que ce temps continue tout en sachant qu'il va mourir. Vous êtes archéologue et vous avez fouillé à Teotihuacan. Vous avez travaillé au début du siècle, vous avez retravaillé dans les années 60, vous avez refait ce palais. Sous ce palais, il y a un autre palais. Il y a des peintures parfaites. Oh, une peinture qui m'inspire un peu. Tiens, vous suivez la base de ce temple. Il y a un oiseau. C'est un aigle, peut-être un perroquet. Bon, ça n'est pas très important, il est vert. Il est vert et il est dessiné de façon parfaite. Vous savez, ces lignes, comme seuls les précolombiens savent les faire, comme Henri Moore adorait s'inspirer de l'art précolombien, on ressent de la même manière qu'une courbe est une courbe parfaite, qu'une ligne est une ligne parfaite. Cet oiseau est parfait. Il est plus qu'un oiseau. Il est devenu rigide même par sa qualité technique. Et il a devant lui son aile. Une aile qui s'ouvre comme une chose qui s'arrondit, vous savez, comme quelque chose de confortable, comme si on voulait vous prendre sous cette aile. Sous cette aile, il n'y a rien. Mais l'oiseau est là, il a des serres énormes, Il a une deuxième aile bien repliée, une queue parfaite sur l'arrière. Il a un bec de perroquet, je vous le disais. Il a une couleur vert bleu, un peu étrange. Et devant lui, sur la pointe de l'aile, il y a un dessin étrange, comme une sorte de trèfle, mais jaune. En fait, si vous regardez bien, c'est une fleur, comme une fleur en bouton, avec deux pétales bien ouverts. Il touche du bout de la plume, du bout de l'aile, cette fleur. Et puis vous avancez, vous suivez le temple, et chaque fois l'oiseau encore. Et tout à coup, sous l'aile, il y a des gouttes étranges. Elles sont noires, elles sont un peu comme du goudron, comme si c'était de la pluie lourde, une pluie de plomb, quelque chose de lourd, des formes. Dessinez une goutte dans votre tête. Et dessous, vous dessinez une deuxième goutte. Elles se touchent, elles se suivent, comme ces gouttes qui se suivent le long du fil d'une araignée. Toutes sont sous l'aile. Et plus vous avancez, quand vous arrivez à la fin du temple, tout à fait à l'opposé de votre première image, il y a des lignes entières de gouttes, comme s'il maintenant, il pleuvait vraiment à torrents. Mais cette image que je viens de vous donner, c'est une image de temps, de vie, de saison. Je vous dirais que sous un temple comme celui-ci, ou dans un endroit où il y a des offrandes, ou dans une tombe de Teotihuacan, il y a des masques superbes, il y a des sculptures extraordinaires, ces masques de pierre avec ces regards vides, ou ces regards de nacre et d'obsidienne. Il y a aussi des vases qui ont des formes, je vais les appeler à la chinoise parce que c'est assez curieux de voir ces tripode, comme cela, trois pieds, bien droits. Le vase lui-même, cylindrique, avec dessus, en général, un couvercle en forme de chapeau chinois. Et puis des motifs qui sont souvent gravés ou peints à fresque après la cuisson. Et là, vous êtes devant un vase qui m'inspire. Regardez-le. Il a un dessin bien incrusté et il s'agit à nouveau d'un papillon. D'un papillon, et vous vous dites, mais ce vase était dans une tombe. À l'intérieur de ce vase, il y avait peut-être des os. Il y avait peut-être, c'est une urne funéraire. Et il y a ce papillon parfaitement dessiné à l'extérieur qui vous interpelle parce que, imaginez-vous, je donnais tout à l'heure la description de ces astres qui se promènent dans le ciel, j'ai parlé même de résurrection, imaginez-vous vous transformer en papillon. Voilà qu'on est de nouveau dans l'idée du sacrifice. C'est une créature très légère, le papillon. C'est une créature qui est née d'une chrysalide. C'est une petite bestiole qui représente en fait parfaitement l'âme. L'âme du défunt, vous étiez dans une tombe, l'âme du défunt, c'est en même temps ce qui va pouvoir renaître au soleil nouveau. C'est ce qui va accompagner véritablement ce soleil jusqu'au firmament, dans le firmament, à travers le firmament. Et c'est ainsi ce papillon, vous le voyez là au printemps, aux premières fleurs, il a plu tout à l'heure. Les dernières corolles se sont ouvertes. La fleur jaune de tout à l'heure est au bout de l'aile de l'oiseau. La pluie est tombée, tout a reverdi. Et vous le voyez, il vole. Il butine d'une fleur à l'autre. Et il peut même, dans l'au-delà, sur ce vase, sur cette urne funéraire, butiner les fleurs de la vie. Vous avez compris, vous venez de parler comme un précolombien. Vous venez de penser exactement comme le papillon du précolombien. Mourir ? Mourir, ce n'est rien. Être papillon, c'est passer à cet état étrange qui fait que la chrysalide, ce moment flou, cette fin de vie, la fin de votre énergie, la fin de votre offrande énergétique, vous avez construit, vous avez conçu une pyramide, vous avez déjà créé sur des kilomètres carrés des modules de pouvoir, des modules de puissance, de la magie pure, vous pouvez disparaître, vous serez de toute façon pendant quelque temps. Oh, j'ai envie de dire 4 ans, parce que l'Aztèque avait bien conçu que les 4 éléments, le chiffre 4, tout pouvait se multiplier par 4. Pendant 4 ans, vous serez ce papillon qui butine les fleurs de la vie dans l'au-delà, mais vous savez pertinemment aussi qu'en butinant juste au moment du printemps, vous allez rencontrer, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez vous-même ne sortir qu'au moment où il vous réchauffera. Je change tout. J'imagine maintenant ce soleil qui, le jour du zénith, est sorti à l'horizon. Je vous avais placé la lune dans l'espace de la nuit. Je vous ai placé Vénus. Vous la voyez, Vénus ? Elle est là-bas, sur l'océan infini. Là-bas, du côté de cet océan où sont arrivés ces premiers bateaux d'Europe. Cet océan qui était la mer divine. De cette mer, vous avez vu l'étoile. Cette planète Vénus qui surgissait à l'horizon, qui est restée là toute une partie de la nuit et qui vous a dit... Attendez, attendez parce que je suis moi-même un peu comme la chrysalide. Je suis l'attente, je suis cette petite lumière capable d'annoncer dans la nuit que quelqu'un d'autre va venir. Et tout à coup, il y a cette rougeur étrange. Le jaguar est en train de laisser sortir de sa gueule ce soleil nouveau. Ce soleil qui, au moment où il monte, va tout à coup, par sa luminosité, supprimer le petit point. Ce petit point qui brillait si fort dans la nuit, cette étincelle d'énergie, cette âme, ce petit papillon qui va se brûler les ailes parce que le soleil sort. Sort, rajeuni, ragaillardi, il a reçu cette étincelle, il l'a prise, il l'accepte, il brillera pour les autres, grâce à vous.